Et coucou, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Larzac. C'est Vincent pour Showtime, votre émission cinéma et pop culture sur les ondes. Et justement, c'est parti pour un nouvel épisode. Le cinéma, un monde aux horizons multiples et variés, où bon et mauvais se côtoient sans arrêt. Ensemble, films, séries, jeux vidéo, romans, BD, comics, mangas forment un vaste univers. Découvrez-en le bon comme le mauvais, tout comme les nombreux secrets qu'ils peuvent renfermer avec Showtime, votre rendez-vous cinéma et pop culture mensuel sur les ondes de Radio Larzac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Showtime, c'est une émission qui dure depuis 13 ans déjà et dont voici le programme de son premier épisode de la saison. Pour cet épisode du mois d'octobre, je vais revenir sur un de mes genres de cinéma préférés, l'horreur. Halloween oblige. Dur de ne pas y couper avec la sortie de Black Phone 2 de Scott Derrickson. Ça va donc être l'occasion de vous parler horreur, Halloween, Scott Derrickson et de la saga Black Phone. C'est tout un programme bien rempli qui vous attend donc pour ce nouvel et premier épisode de la saison 13 de Showtime. Showtime, saison 13, épisode 1, on y va! Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver! C'est toujours un petit Vincent depuis Lyon, toujours pour l'Aveyron, que vous avez là et que vous entendez. J'espère que vous allez bien!
Moi, ça va bien, ça va bien. C'est que j'en aurais à dire. Faut dire, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois où vous m'avez entendu. Mais assez tergiversé. Si ça vous intéresse, vous savez où me trouver. C'est donc un petit vin-vin tout fier de sa nouvelle cotisation qui va vous offrir, comme il se doit, une toute nouvelle saison. 13e saison. Waouh ! C'est dingue ! Comme le temps passe. 13 ans de Showtime déjà. Et pour ce premier épisode de la saison, je vais vous parler films d'horreur. Mais pas que ! J'en dis pas plus. Focus, c'est parti ! Focus. Commençons par un petit rappel.
On en avait déjà parlé ensemble dans une précédente émission, mais ça ne fait jamais de mal de le redire. Le film d'horreur, ce n'est pas seulement un genre qui veut nous faire sursauter ou nous glacer le sang. C'est un cinéma qui cherche à provoquer chez nous des émotions fortes. Peur, angoisse, malaise, parfois même dégoût. Mais derrière le frisson se cache bien souvent un sous-texte, une réflexion sur nos angoisses collectives, nos tabous, nos rapports à la mort, au surnaturel ou encore à la religion. L'horreur, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi un miroir de la société. Et qui dit horreur, dit forcément Halloween. Là aussi, on avait déjà évoqué ce sujet dans une autre émission, mais on peut en redonner les grandes lignes. Halloween, avant d'être une fête commerciale avec des bonbons et des citrouilles, trouve ses origines dans l'ancienne fête celtique de Samhain, qui marquait la fin de l'été et le début de la saison sombre. Les Celtes pensaient que cette nuit-là, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était plus mince, permettant aux esprits de revenir. Avec le temps, la fête a été christianisée, donnant la Toussaint et la veille de Toussaint, All Hallows Eve, devenue Halloween. Aux États-Unis, au XXe siècle, la fête prend l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui et devient indissociable de l'horreur au cinéma. Chaque fin octobre, les studios sortent leurs films d'épouvante et beaucoup de classiques ont surfé sur cette période. Bref, Halloween et le cinéma d'horreur, c'est une alliance ancienne et puissante, telle une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Et justement, cette année, le calendrier offre un joli cadeau aux amateurs de frissons. La sortie, ce 15 octobre, de Black Phone 2, signé Scott Derrickson. Mais qui est Scott Derrickson? C'est un réalisateur américain né en 1966 à Denver. Ce qu'il distingue des autres cinéastes de l'horreur, c'est sa capacité à mêler un imaginaire religieux, spirituel, avec des récits d'épouvante souvent ancrés dans la réalité. Il a d'abord étudié la littérature et la philosophie, puis le cinéma. Ce qui explique que ces films ne se contentent pas de faire peur. Ils interrogent la foi, la justice ou encore la notion du mal. Des films, il y en a eu, mais son premier grand coup d'éclat qui mêle habilement tous ces éléments précités, c'est L'exorcisme d'Emily Rose en 2005. Un film marquant parce qu'il mélange deux registres. Le film de possession démoniaque et le drame judiciaire. Inspiré d'une histoire vraie, celle de la jeune Allemande Annelies Michel, morte après plusieurs séances d'exorcisme, le film suit un procès où un prêtre est accusé d'homicide involontaire. Ce mélange entre horreur et tribunal était inédit à l'époque. Et puis, il y a la performance de Jennifer Carpenter, absolument saisissante dans le rôle d'Emily. Sa capacité à se contorsionner et à habiter la souffrance de son personnage a marqué les esprits et a été salué par la critique. Le film a eu un vrai succès au box-office, engrangeant plus de 140 millions de dollars dans le monde et a même valu à Derrickson des récompenses, notamment le Saturn Award du meilleur film d'horreur. Bref, un véritable tremplin pour sa carrière, un succès qui lui a ouvert les portes du grand public.
Ma réputation n'a aucune importance. Ce qui est important pour moi, c'est de raconter l'histoire d'Emily Rose.
L'esprit erre à la recherche du gardien des portes, du protecteur, pour qu'enfin soit apaisée la colère des âmes torturées qui jamais n'entreront au paradis. L'archange porteur de l'épée de feu, la croix céleste brandie comme bouclier, marche sans peur et repousse l'enfer dans sa tanière.
Vous savez combien vous pouvez prendre pour ça?
Les gens doivent entendre mon témoignage.
C'est-à-dire?
Ce qui est vraiment arrivé à Emily et pourquoi.
Elle pensait donc que le mal s'est emparé d'elle un soir à l'hôpital?
Je crois, oui.
Emily était épileptique.
Les croyances du père Moore sont basées sur la superstition.
Est-ce que le père Moore vous a demandé une aide médicale ?
Je ne pouvais rien faire.
Et pourquoi ça ?
Parce qu'il n'existe aucun traitement contre le mal.
Emily ? Hé ?
Les démons existent, que vous y croyez ou non. Prenez garde. Des forces se sont invitées à ce procès. Emily, est-ce que tu m'entends ?
Éloignez-vous de moi !
Je te chasse de ce corps !
Allez, vos gens !
Ça commence.
Gloire à Dieu.
C'était la bande-annonce de l'exorcisme d'Emily Rose. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce film et je lui trouve une angoisse, une ambiance à nul autre pareil. Et justement, après cela, Derrickson continue à creuser son sillon dans l'horreur, enchaînant les projets marquants. En 2012, il réalise Sinister, un film qui a laissé beaucoup de spectateurs traumatisés. Le pitch, un écrivain en panne d'inspiration emménage avec sa famille dans une maison où il découvre des bobines de films d'horreur qui révèlent des meurtres atroces. Là encore, Derrickson excelle dans l'ambiance granuleuse, sombre, oppressante. Les vidéos retrouvées tournées à la Super 8 y jouent pour beaucoup, ainsi que la performance d'Ethan Hawke. C'est ce qui fait que Sinister a été reconnu comme l'un des films les plus effrayants des années 2010.
Je voulais pas venir habiter ici.
On pouvait plus payer les traites de la maison, et l'affaire sur laquelle je travaille s'est passée près d'ici.
L'histoire sera bien cette fois ?
Je vais écrire le meilleur livre de tous les temps.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pour des ondes crémaillère. Barbecue 1979. C'est la famille qui vivait ici.
Vous croyez que c'est des meurtres en série ?
Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole.
Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme.
Je n'ai jamais été sur un truc aussi énorme. Qu'est-ce que t'as fait, chérie ?
Un dessin. Je voulais faire son portrait.
De qui est-ce que tu parles ?
De Stéphanie. Elle habitait ici.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il faut qu'on parte, maintenant.
C'était la bande-annonce de Sinister. Là encore, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a bien effrayé. Hein. Quelle bonne idée j'ai eue à ce moment-là de le regarder lors du premier visionnage avec un casque sur les oreilles. Oh là 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 là, je m'en souviens encore. Que tension. Et il y en a eu aussi en 2014 où... Scott Derrickson enchaîne avec « Délivre-nous du mal », inspiré, encore une fois, d'événements présentés comme réels. Le film suit un policier new-yorkais enquêtant sur une série de crimes étranges. La vraie nature de ces horribles événements l'oblige à s'allier à un prêtre, ce qui les amène à faire face tous deux à des forces démoniaques. Ici, Derrickson propose un mélange de polar urbain et de récits d'exorcisme, le tout avec un ton très poisseux, plus terre-à-terre, qui colle à la sueur et à la crasse des rues de New York. Moins spectaculaire que Sinister, mais profondément oppressant.
Je suis flic. Mon travail passe avant tout.
Je comprends les longues heures de travail, mais même quand t'es ici, t'es pas là.
Coucou papa, je t'aime et j'aimerais que tu sois à la maison.
Je viens voir le lieutenant Sarchi.
J'ai rencontré beaucoup de prêtres. Vous n'avez pas le profil.
Et j'ai connu beaucoup de flics et vous avez exactement le profil.
Chaque soir, je plonge dans les bas-fonds. J'ai vu des choses horribles. Rien qui ne puisse être expliqué par la nature humaine.
Alors, vous n'avez pas vu le mal.
Il y a une femme cinglée qui se plaint de nuisances bizarres. Des bruits.
Après vous. Ce qui est écrit, ça veut dire quoi?
J'ai eu affaire à deux types de mal dans ma vie. Le mal secondaire, celui engendré par les hommes, et le mal originel, d'une nature totalement différente. Les méthodes classiques ne peuvent rien contre lui. Vous allez entendre trois voix. L'une des voix est celle d'une petite fille de 5 ans. Toutes les cultures, toutes les religions ont pratiqué l'exorcisme.
Il y a une noirceur qui grandit en moi. Il m'arrive quelque chose. Dites-moi que vous l'avez vu.
Vous sentez des choses qui échappent aux autres. Mais ça vous met en danger. Votre famille est déjà en danger.
Maman.
C'est parti.
C'était la bande-annonce de Délivre-nous du mal. Je crois que j'ai dû vous en parler dans Showtime, hein, parce que 2014, oui, l'émission avait déjà commencé. J'avais déjà dû vous en donner un petit avis dans ses premières saisons, donc... Moi, je trouve qu'il faisait son petit effet, justement, la croisée des chemins entre enquête policière et film d'exorcisme, possession, ce genre de choses. Ouais, ça faisait son petit effet. Et puis, arrive 2016. Le moment où Hollywood frappe à la porte de Scott Derrickson qui se voit confier un projet d'une toute autre ampleur. Doctor Strange pour Marvel Studios. Là, changement de registre. Mais si on y regarde bien, on retrouve sa patte. L'histoire de Stephen Strange, ce chirurgien brisé qui découvre l'univers de la magie, permet à Derrickson de mettre en scène des visuels hallucinants. Univers parallèle, dimensions fractales, créatures mystérieuses, on y retrouve son goût pour l'étrange et pour la lutte entre bien et mal. Mais transposé dans un blockbuster grand public. Le film a été un énorme succès, rapportant près de 700 millions de dollars. Alors qu'il devait justement réaliser sa suite, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, des divergences créatives amènent Scott Derrickson à quitter le navire et à revenir à son genre de prédilection, l'horreur, avec Black Phone en 2022. Adapté d'une nouvelle de Joe Hill, le fils de Stephen King, le film raconte l'histoire de Finney, un adolescent enlevé par un tueur en série surnommé The Grabber en VO pour l'attrapeur dans notre bonne langue de Molière. Dans sa cellule, un téléphone noir débranché se met à sonner et Finney reçoit les appels des anciennes victimes prêtes à l'aider à s'en sortir. Le film a marqué par son atmosphère étouffante, son mélange entre horreur surnaturelle et drame psychologique. Le casting est solide. Ethan Hawke en tueur glaçant, masqué derrière un visage démoniaque conçu par le maquilleur Tom Savini. Mason Thames dans le rôle du jeune Finney et Madeleine McGraw qui campe sa sœur. La musique signée Mark Corvin, qu'on connaît pour The Witch, contribue énormément à l'ambiance angoissante. Black Phone a surpris par son efficacité et son humanité. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé?
La vie.
Si tu veux, je te fais un tour de magie.
Ouais.
dis-moi comment tu t'appelles.
Taylor.
Je commençais à vraiment bien t'aimer. Finet, j'ai failli te laisser partir.
Ne raccroche pas.
Qui t'es alors ?
Tu sais comment on s'appelle ?
Il marche pas. Raccroche. J'ai préparé le petit déjeuner.
Vous y avez mis quoi ?
Du sel et du poivre.
Vous pouvez nous dire si vous avez vu ce garçon ?
Mon frère, il se faisait enlever.
Par un homme avec des ballons noirs.
J'avais rêvé de lui. S'il vous plaît, faites que mes rêves disent vrai.
Tu vas sortir d'ici.
Comment ?
Mets un cadenas à code.
Tu te souviens du code ?
Raccroche ce téléphone ! Tout de suite !
Il te reste très peu de temps.
Sers-toi d'une arme.
Toi, t'es à part, Finet.
Dépêchez-vous.
Ouh, ça m'a fichu une de ces trouilles.
Au premier visionnage, je ne l'avais pas trouvé plus marquant que ça. Pour preuve, jusqu'au deuxième visionnage, re-regardage, je ne m'en souvenais pas grand plus. Et c'est là au fur et à mesure que les scènes me reviennent. Un résultat tout aussi mitigé, hein, même si pour le coup, j'ai un peu plus apprécié. Tout ça parce que je savais à quoi m'attendre. Au revoir les fausses promesses du synopsis. Au revoir les fausses attentes dues au nom de Derrickson, qui, comme vous avez pu le comprendre, a su marquer de sa patte le cinéma d'horreur en nous livrant certains de ses films les plus efficaces. On apprécie donc le long métrage à sa juste valeur au second visionnage, si l'on peut dire. Il faut toutefois ne pas en attendre un film qui va vous faire sursauter. Si ce n'est quelques jumpscares téléphonés. Non, ça ne fait pas peur, c'est surtout poisseux si l'on veut. Derrickson nous ancre encore une fois dans le réel, son réel des années 70 qui l'a marqué et qui va marquer ici nos protagonistes. Bien que l'histoire se tienne, elle aurait pu gagner en profondeur en lui coupant quelques longueurs. Certes, il y a de l'idée dans la réalisation, notamment la notion de dimension onirique, filmée en Super 8, mais un film ne se suffit pas à l'image, il ne faut pas oublier le récit. Développer les personnages de Finet, de sa sœur Gwen ou encore de l'attrapeur aurait pu permettre à leur interprète de briller, d'autant plus qu'ils ne brillent déjà grâce à leur interprétation. Mention particulière à Ethan Hawke qui a surtout joué de sa voix pour pallier au fait d'être masqué. Bref, Black Phone, ça se regarde, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. C'est du film horrifique, grand public, comme on commence à trop en manger. c'était The Grey Bear, une musique de Mark Corvin qui participe pour beaucoup à l'atmosphère oppressante, à défaut d'être effrayante, de ce premier Black Phone. Sur certains aspects, ce n'est pas sans faire penser à la musique de Hildur Guðnadóttir qui a signé les partitions du film Joker. Ça se ressent notamment dans les envolées hein, que l'on entend sur la fin. Bref, revenons-en à nos moutons. Black Phone. Le succès critique et commercial, 16 millions de budget pour 160 millions de box-office, de ce film a très certainement donné des idées au producteur et à son réalisateur pour la suite. Ce qui en a ouvert la porte. Et voici donc Black Phone 2, prévu pour ce 15 octobre. Un projet que je n'avais pas vraiment vu venir au départ, hein, puisqu'avec du recul et revisionnage, le premier film se suffisait en soi. Mais quand une formule marche, Hollywood sait comment prolonger l'aventure. Deux bandes annonces sont déjà sorties, laissant entrevoir un prolongement de l'univers, avec toujours ce mélange de réalisme cru et de fantastique inquiétant.
Bonsoir, Finney. Tu as cru que notre histoire était finie ?
T'es mort.
Toi, plus que quiconque. C'est que la mort n'est qu'un mot.
Justement, parlons-en. Avec ce nouvel opus, on peut espérer que Scott Derrickson ait poussé les curseurs et vienne à nous faire plus peur. C'est ce que laissent espérer les bandes-annonces qui sous-entendent que la dimension onirique Super 8, c'est comme ça que je l'appelle hein, parce qu'il les filme hein, avec une Super 8, hein, c'est expliqué dans les bonus du premier film, où justement ça permettait d'offrir un petit grain hein, à la photo, hein, donnant un aspect un peu inquiétant, un aspect found footage un petit peu à ces moments vécus, hein, les rendant un petit peu plus inquiétants. Donc oui, cette dimension onirique Super 8 sera au cœur du récit, du moins c'est sous-entendu par les bandes-annonces, et cela promet de beaux effets de mise en scène, avec notamment le retour de notre attrapeur, toujours incarné par Ethan Hawke, qui pourra interagir avec notre réalité. Plus qu'à espérer que Finney et Gwen, les deux petits du premier, maintenant adolescents, seront mieux développés, ainsi que leur némésis qui, jusque dans leurs rêves, viendra les pourchasser. Mais est-ce que Derrickson saura faire preuve d'autant de subtilité que le maître ? Ça, on peut en douter, surtout quand bande-annonce et synopsis semblent nous avoir tout de l'histoire dévoilée.
Have you heard of the Grabber?
kill them.
What happened in that basement really changed it. Finn, I had a bad dream. It was about missing kids.
It was just a dream.
About a real place. A youth camp. We have to go there.
Wake up! Wake up!
This place. You brought us here for a reason.
Nothing burns like the cold.
How the tables do turn.
What do you think happens when you die in a dream? It's time to find out.
Ouais, pour le coup, faudra pas juste aborder les choses en surface, notamment avec les personnages qui ont grandi. On pourrait éventuellement évoquer, enfin, les thèmes de l'adolescence, le temps qui passe, puisque on aura avancé dans le temps. Ça sera le début des années 80, je pense. Donc ouais, il y aurait matière à faire, matière à dire. De l'horreur en son temps, reflet de certaines thématiques de notre présent, c'est que ça pourrait être intéressant. Mais justement, il ne nous reste plus qu'à espérer que Scott Derrickson nous ait livré un récit poignant, pour ne pas dire puissant. Pour conclure cette émission, je voudrais souligner une chose, un dernier petit mot sur la place du cinéma d'horreur. Malgré les clichés, c'est un genre, loin d'être mineur, trop souvent réduit à un genre populaire, fait pour amuser ou effrayer les ados un soir d'Halloween. Bon, ce n'est pas mes derniers mots qui vont arranger mon propos, car je suis le premier à dire qu'il s'est blockbusterisé pour ne pas dire trop ouvert au grand public. Mais, gardez bien en tête que c'est bien plus que ça. Des films comme Titan de Julia Ducournau, Palme d'or à Cannes en 2021, ou plus récemment The Substance de Coralie Farja, couronné à Cannes en 2024, montrent que l'horreur peut être un cinéma d'auteur, pour ne pas dire d'art et essai, un cinéma radical qui s'impose jusque dans les plus grands festivals.
Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête.
Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance.
Je suis sous.
Vous êtes engagé.
Let's go.
Une alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vous n'êtes qu'une.
Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance.
Non ! Cette alternance ne fonctionne pas du tout !
Il faut que tu... contrôle !
Elle est vieille, grosse, dégueulasse !
Oh, les gens vont adorer ça.
C'était la bande-annonce de The Substance. Je vous en ai déjà beaucoup parlé l'année dernière, autant dans Showtime que dans Zoom & Co, votre émission cinéma et événement 7e art sur le bassin Millavoie. Je ne vais donc pas m'étaler dessus, mais ouais, The Substance de Coralie Farja. C'est vraiment un film qui a frappé fort, très fort. On est là en plein dans le body horror, ce sous-genre où le corps devient le terrain du cauchemar, avec toutes ses transformations, ses excès, ses décompositions. Le tout est une réflexion glaçante à notre rapport au corps, à la jeunesse éternelle, à la société qui broie les femmes quand elles vieillissent. Et je ne vais pas revenir sur les performances des actrices ou vous parler encore et encore de Margaret Qualley. Hein Didier, dédicace à toi, Annick et Muriel, je pense fort à vous et vous fais des bisous. Bref, tout pour dire, où je veux en venir, c'est vous dire, Titane et The Substance, Cocorico, ce sont des films français. N'oublions pas non plus que Stephen King lui-même a déclaré que Marianne, une série française produite par Netflix, était l'une de ses séries d'horreur préférées. Oui, même face aux mastodontes américains, la France sait aussi faire peur, et de très belles manières. Alors, ne dénigrons pas ce genre, qu'il soit populaire, commercial ou radical et expérimental, le cinéma d'horreur fait partie intégrante de la grande famille du cinéma. Et, parfois, derrière le masque du monstre, il y a bien plus qu'un simple frisson. Il y a une réflexion profonde sur notre monde et sur nous-mêmes.
Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance.
Quelle chose ? Marianne.
C'est une sorcière.
Privée de corps et l'air, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle.
Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne ?
Je sais pas. Depuis le début, elle est dans ma tête.
Je te préviens. Je vais punir! Et je respecte toujours mes promesses.
Marianne, oh Marianne, cette Marianne dont vous venez d'entendre la bande-annonce. Ah, je vous en parle rapidement. C'est une série française sortie en 2019 sur Netflix. Et franchement, quelle audace pour une production française! On n'a pas l'habitude d'avoir des séries d'horreur de ce calibre chez nous. Et pourtant, Samuel Boudin, le créateur, a osé. L'histoire, c'est celle d'Emma, une jeune romancière spécialisée dans l'horreur, qui découvre que Marianne, la terrifiante sorcière qu'elle a inventée pour ses livres, existe pour de vrai et commence à la hanter, elle et son entourage. Rien que le pitch est déjà flippant et la série ne fait pas semblant. Ambiance glauque, mise en scène efficace, jumpscare bien dosé et une atmosphère pesante à souhait. Elle a connu un vrai succès critique et public, au point que même, encore une fois, Stephen King lui-même l'aurait cité comme une de ses séries préférées. Malheureusement, malgré ce succès, Netflix a choisi de l'annuler après une seule saison, au grand désarroi des fans, dont moi. Tristitude. Faut vraiment que je me la refasse à l'occasion. Puis, comment ne pas m'y retrouver, moi qui apprécie beaucoup les jeux Alan Wake qui ont une histoire similaire avec un écrivain maudit, mais pas que, car il me plaît de beaucoup écrire. Mais enfin, je n'en dis pas plus, ce serait vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Teasing, teasing. c'était End Credits, Welcome Again to Bright Falls de Petri Alanko, un morceau extrait de la bande originale de Alan Wake 2. Ah, Alan Wake 2, là encore toute une histoire entre ce jeu et moi. Ça fait bizarre dit comme ça. Mais oui, j'avais déjà pris plaisir à vous en parler dans une précédente émission, mais peut-être qu'avec du recul, je pourrais essayer de refaire quelque chose autour, de manière un petit peu plus structurée, notamment autour du Remedy Connected Universe ou de Remedy Games, qui nous offre vraiment des jeux narrativement parlant plus que poignants. Mais oui, il faut aussi que j'arrive un petit peu à défendre ce dixième art hein, qu'est le jeu vidéo. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Et justement, encore une fois, je vous en ai déjà beaucoup dit pour pas dire trop parler, car en effet, ceci étant dit, je pense avoir tout dit, car oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, vraiment, c'est un réel plaisir de vous retrouver et de vous parler ciné. Depuis 13 ans. Quoi ? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens toujours pas. Merci à Radio Larzac de me permettre de continuer cette belle et passionnante aventure qui va bien au-delà d'une simple émission radio. Il y a quelque chose de profondément humain derrière et c'est une des forces de l'associatif. Alors oui. Merci, merci Radio Larzac de continuer à me diffuser. Et merci à vous, auditeurs, de m'avoir écouté. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur l'émission et pour la suite, vous pouvez m'écrire à showtime.radiolarzac@gmail.com, oneroi.studio@outlook.com ou sur mes réseaux chat-8fouineur ou encore suivre mes vidéos YouTube chat-fouineur. C'était Vincent. Toujours avec passion pour Radio Larzac, je vous dis à tout bientôt pour la suite.